J'ai-tu mis assez de légumes dans leur lunch? Oh my God, faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Mental note, sortir le poulet du congé pour souper.
Est-ce que tu te sens dépassé par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut, je m'appelle Eve. Je suis coach certifiée en santé holistique pédiatrique. Après un diagnostic de maladie auto-immune à l'âge de 30 ans, que je me suis juré que j'allais tout faire pour pas que mes futurs enfants se retrouvent dans la même situation. Avec mon service de coaching, j'aide les mamans à se sentir outillées et confiantes de prendre des décisions éclairées pour la santé de leurs enfants. Je les accompagne dans la mise en place d'habitudes saines et durables pour supporter leur famille de façon naturelle. Dans le podcast, seul ou accompagné d'un invité, j'aborde des sujets variés dans le but de t'informer, te donner des trucs ou de vulgariser des informations pas toujours simples à comprendre. Mon but, c'est que chaque épisode te fasse réfléchir pour que tu puisses faire des petits pas sans passer des heures sur le sujet. Parce que, tu sais, t'es maman, t'as pas besoin de t'en rajouter. Oublie pas de t'abonner pour pas manquer un épisode. Que tu sois en train de bien brasser de lavage, faire la vaisselle ou en chemin pour aller chercher les enfants en garderie, je te souhaite une bonne écoute. Avertissement. Ah oui, prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Petit Pas Santé pour un autre épisode, l'épisode 22. Aujourd'hui, j'ai invité Marie-Claude Larcette de Vivace à venir me jaser. J'ai rencontré Marie-Claude il y a quelques semaines en personne, puis on n'a pas arrêté de jaser. Je l'avais invitée avant ça pour faire l'épisode avec moi parce que je suis tombée sur elle et son chum, Vince, font du contenu incroyable sur les réseaux sociaux. Qui me fait toujours rire, du contenu super pertinent, puis beaucoup en lien avec la santé parce qu'il parle du mouvement actif chez soi, plus particulièrement du design actif à la maison. Marie-Claude va nous en parler plus pendant l'épisode. Alors, salut Marie-Claude!
Allô! Je suis contente d'être avec toi.
Moi aussi, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour commencer, ma première question, ce serait, c'est qui Vivace?
Une belle question, parce que souvent, c'est quoi Vivace? Puis j'explique l'organisation. Puis là, ça m'a fait réfléchir à, mais c'est qui les humains derrière? Fait que tu as présenté Vincent tantôt. Vince, c'est mon mari. Mm-hmm. Je dis aussi souvent que c'est mon meilleur ami. On est tout le temps ensemble. On est des perruches, des lovebirds, là. On est des perruches qui se collent tout le temps, en tout cas. Puis, il y a aussi, si vous nous suivez sur les médias sociaux ou notre infolettre, vous connaissez aussi notre petit bonhomme Marc Corel, qui a maintenant 2 ans et demi. On a choisi d'exposer une partie de notre quotidien parce qu'on pense que c'est ça qu'on a besoin en ce moment. C'est des exemples de la vraie vie.
Oui.
Puis que quand on parle de saines habitudes de vie, qu'on sorte des modèles conceptuels généraux de Joseph, il faut bouger plus, puis de montrer aux gens concrètement à quoi ça peut ressembler puis comment on est capable d'adapter ça dans différents contextes. Fait que si des gens nous suivent, c'est qui Vivace? Bien, ils vont voir mon visage, ils vont voir Vince. Souvent, on dit à la blague qu'entre nous, que moi, c'est le contenu réfléchi puis lui, c'est les jokes. Là.
Ouais.
C'est comme Instagram, c'est comme une espèce de Frankenstein de ces deux entités-là. Fait que ça alterne. Je pense que c'est ça qui fait que c'est divertissant, c'est que c'est jamais pareil.
C'est vraiment divertissant. C'est pour ceux et celles qui ne suivent pas encore Vivace, je vous invite à aller le suivre. C'est quoi, en fait, votre histoire? Donc, c'est quoi qui vous a mené vers Vivace, toi et Vince?
Mm-hmm. C'est une bonne histoire. On est deux Lavallois d'origine. On a grandi à 10 minutes l'un de l'autre et on ne s'est pas rencontrés avant la fin de notre vingtaine.
Wow.
Moi, j'avais un projet, lui en avait un à l'époque, puis je cherchais un photographe. Puis je voulais un photographe justement de la vraie vie. Mm-hmm. T'sais, fait que pas des photos studio fake. Puis là, j'en parle à un de nos amis communs qui est photographe. Puis je disais, t'aurais-tu un contact pour ça? Puis là, il me présentait Vince, qui était à ce moment-là à Banff. Puis on s'est rencontrés par Skype. Puis après 5 semaines à parler, puis on avait plein de sujets de conversation intéressants, puis je me rappelle même pas de quoi on parlait, honnêtement. J'ai fait, oh, pas le temps de niaiser, j'ai pris un billet d'avion, je suis allée le voir. J'étais là, je vais avoir le cœur net rapidement, là, tu sais, je... puis lui, il faisait un contrat là-bas, dans une boutique photo, puis son rêve après ça, c'est de partir faire un road trip en van à travers le Canada puis les États-Unis. Je sais que toi, t'es familière aussi avec l'Ouest canadien. Oui. Fait que c'est quelque chose qu'on avait bien jasé aussi. Puis moi, j'étais déjà dans la promotion des saines habitudes de vie. Puis j'avais lancé un projet pour parler justement beaucoup du jeu libre chez les enfants puis de l'importance de développer la littératie physique des enfants. Puis j'avais vu une offre d'emploi passer en faisant mes recherches dans ce domaine-là. De Participation, qui est le plus grand promoteur de l'activité physique au Canada. Oui. Puis la job, c'était une job de rêve. Là. On partait en petite équipe faire la plus grande tournée de promotion de l'activité physique au pays. On était payés pour faire un road trip pendant l'année. Wow. Puis aller dans différents événements, des petits, des grands. On était au centre-ville de Toronto, on était dans des petits événements, dans des villages acadiens. C'était incroyable. Puis... on allait être sur la route comme ça. Fait que j'ai dit à Vince, hey, t'as un rêve de partir en road trip. Puis là, tu pourrais être payé pour le faire. Puis on a appliqué ensemble alors que ça faisait quelques semaines qu'on se connaissait. Puis on a été pris. Fait que notre relation a commencé comme ça. Finalement, là, c'est un an et demi avant qu'on sorte vraiment ensemble. Fait qu'il y a eu comme toutes sortes de péripéties, mais ça nous a vraiment rapprochés. Puis ça fait que notre amitié s'est développée dans un contexte où on parlait constamment, constamment de la santé. Okay. Tout ce qu'on faisait quand on était sur la route, on écoutait des podcasts sur le bien-être, tous les piliers de bien-être. Puis, avec Participation, dans le fond, pendant l'année, on a juste rencontré des milliers de personnes. Le but, c'était de les faire bouger sur place, leur faire découvrir des activités ultra simples.
Ouais.
Mais je rencontrais aussi différents intervenants, des éducateurs, des professeurs. Puis, il y a une partie de moi qui voulais comprendre un peu c'est quoi l'état des choses, comment vont les gens. Puis je posais tout le temps la question, comment ça se passe avec vos élèves, comment ça se passe avec les jeunes, les personnes âgées, puis tout. Puis malheureusement, la réponse qui revenait souvent, c'est ça va de
moins en moins bien. Ouais.
Ça va de moins en moins bien. Puis là, ça me saisit quand j'ai commencé à lire des rapports sur le fait que les enfants souffrent présentement de maladies chroniques qu'on associe avant à la vieillesse.
Oui. En fait, on va développer, on parlait de ça tantôt, le livre de Pierre Lavoie qui a sorti un livre qui s'appelle « Faut que ça bouge ». Puis il explique bien dedans comment maintenant on est inactif, on est vraiment sédentaire en fait. Puis nos enfants vont développer les maladies chroniques que notre génération développe dans la soixantaine. Ben maintenant, eux, ils vont les développer dans la quarantaine. Mais on voit déjà ça, dans le fond, parce que nous, quand on était petits, il y a 40 ans, les enfants, il n'y avait pas ça du diabète type 2. Ça n'existait pas. Puis mm-hmm. maintenant, puis dans le temps, on appelait ça du diabète juvénile. Puis maintenant, c'est du diabète type 2, full on. Puis ils ont des maladies des métaboliques. Il y a des maladies du foie gras qu'on voit chez les alcooliques. Les enfants développent ces maladies-là. Puis c'est beaucoup lié à notre mode de vie qui est sédentaire. Donc, je comprends ton choc. Oui.
Ouais. Parce qu'à l'époque, tu sais, il y avait encore... c'est un peu comme avec l'environnement. Là. Pendant une période, il y a des gens qui disaient « ça va pas bien, la nature, tu sais, faut agir. Mm-hmm. » Puis ils se faisaient dire comme « ben non, t'es coucou, là, tu sais. » Puis on dirait qu'avec les saines habitudes de vie, ça fait longtemps que ça se parle, mais ça résonne pas nécessairement profondément. Puis il y avait encore, je me rappelle, quand je disais ces rapports-là, il y a encore de mes amis qui me disaient comme « ben non, mais vieillir, c'est juste normal que tu dépérisses. Mm-hmm. » Mais à partir du moment où tu vois que les enfants souffrent de maladies qu'on pensait être associées juste au fait qu'on vieillit, puis à un moment donné, tu sais, la phrase « il faut bien mourir de quelque chose mm-hmm. », là, on dirait que ça devient indéniable, qu'il y a quelque chose qui cloche avec notre société. Puis l'idée que des enfants peuvent être en souffrance aussi jeunes, comme moi, ça m'a donné un grand sentiment de purpose, de, tu sais, une mission dans la vie. Puis quand on a fini la tournée de Participation, moi, puis Vienne, il avait encore son rêve de partir en van à l'aventure. Puis finalement, la blague, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour payer son gaz. Puis il est resté parqué au parc Laurier. Puis on continuait d'être tout le temps ensemble. Puis lui, il a lancé un blog à l'époque qui s'appelait Vivace, où il testait des affaires sur lui-même, tu sais, mettons, c'était des trucs saugrenus, mais tu sais, genre, dormir par terre, manger, vivre sans ustensiles, enlever le soleil. Il enlevait des choses de son quotidien pour voir l'effet sur lui. Fait que lui, il travaillait là-dessus, moi, je travaillais sur mon projet, puis après 4 mois, on était tout ensemble, puis on s'est dit, bien là, il faut qu'on travaille ensemble. Tu sais, on va allier nos forces.
Oui.
Puis, fait que ça a toujours été l'angle, on veut être en meilleure santé, on veut plus de bien-être, un bien-être optimal, mais le but, c'est de faire des recherches, mais de passer à l'action, de tester des choses sur nous, puis on vous partage ce qu'on découvre. Fait que c'était ça l'essence du projet dès le départ.
De partager en live, là.
En direct, ouais, tu sais, dire « je teste ça en ce moment ». Parce qu'on a réalisé que ce que les gens ont besoin, c'est pas juste des recettes ou des réponses toutes faites.
Mm-hmm.
Je pense qu'on doit... Tu sais, je pense qu'on partage ça, hein, on veut amener les gens à reprendre le pouvoir sur leur vie.
Oui.
Puis la question, comment on change? Comment on développe des nouvelles habitudes? Comment on transforme notre vie? Mais ça revient à... C'est un acte créateur, tu sais, puis on n'est plus habitué, quand on a été drillé à l'école,
ouais,
d'obéir à une structure qui est autre. Là, on a... OK, on a le pouvoir, mais on a la responsabilité, il faut prendre les décisions. Comment on fait? Comment j'enseigne à mon enfant d'être le propre acteur de sa vie? T'sais? C'est ça la grande question philosophique,
ouais,
finalement. Fait qu'on s'est dit, ben, il faut montrer le processus d'apprentissage.
Ouais.
Encore plus que juste le résultat. Fait que, ouais.
Puis,
on fait ça depuis une couple d'années maintenant.
Puis, en fait, dans votre quête, parce que quand on s'était parlé, tu disais aussi que tu trouvais que ça faisait pas de sens d'essayer de montrer aux gens de bouger, mais dans leur quotidien, leur environnement n'est pas fait pour bouger. C'est ouais, comme, tu sais, on a des chaises, on s'assoit à la maison, on s'assoit devant la télé, on s'assoit pour travailler. Donc, dans notre quotidien, on est même devenu comme immobile. Donc là, vous avez expérimenté ça. C'était ça un peu le départ. C'est pour ça que quand je vous ai découvert, j'étais là, aïe, c'est pas fou, tu sais. Mais... fait que dans le fond, vous avez aménagé votre espace. Puis ça ressemble à quoi? Parce que moi, j'avais un espace vivace maintenant, évidemment.
Ouais.
C'était quoi vos premières étapes
ouais,
pour aménager votre espace? Parce qu'au début, vous étiez à Montréal en plus.
Oui, on vivait dans un 4,5 très classique à Montréal. T'sais, on n'avait pas énormément d'espace. On était au deuxième étage. On n'avait pas de cour. On avait 2 balcons. Fait qu'on a essayé d'optimiser notre espace pour bouger davantage. Parce qu'une de nos réalisations, c'est que si on ne bouge pas assez comme société, c'est pas juste qu'on fait pas assez de sport.
Mm-hmm.
C'est que toutes nos activités du quotidien peuvent être faites sans effort parce qu'on a créé des objets, on fait affaire avec des services, on utilise nos voitures. Ça fait que tout ce qu'on ferait au quotidien normalement, souvent je réfère à la vie des chasseurs-cueilleurs,
ouais,
parce que c'est ça fondamentalement la vie dont on aurait besoin. Toutes les activités qu'on faisait à ce moment-là, en ce moment, peuvent être faites sans effort physique. Puis, aller faire du sport une fois par jour, c'est déjà excellent, mais ça compense pas une journée entière d'immobilité.
Ouais.
Puis, on a découvert différentes personnes qui ont commencé à nous faire réaliser qu'on est, comme humains, on n'existe pas tout seul on flotte pas tout seul dans l'espace. On existe en relation avec un environnement.
Ouais.
Puis l'environnement bâti influence nos comportements. Puis, vu que l'humain veut sauver de l'énergie, on est programmé pour ça. Fait que si jamais vous vous sentez paresseux ou paresseuse parce que vous n'aimez pas faire de l'activité physique, sachez que c'est une programmation en vous.
Normal.
Où la nature ne veut pas que vous dilapidiez votre énergie pour rien. Mais ça fait qu'on a inventé toutes sortes de patentes pour se simplifier la vie. Mais là, on est comme l'humanité est rendue à un point que nos environnements nous invitent à bouger le moins possible. Fait qu'on... Là, tu sais, t'as nommé les chaises. Tu sais, la chaise... Normalement, l'humain vivait au sol, va squatter
mm-hmm.
plusieurs fois par jour, va avoir des dizaines de positions dans lesquelles il peut se mettre au sol. Puis là, la chaise nous évite de même squatter. Elle
ouais.
enlève cet effort-là de squatter jusqu'au bout. Mais après, on regarde, il y a des divans, il y a les lits qui sont surélevés, qui vont avoir une influence. Nos comptoirs sont hauts, fait qu'on n'a plus besoin de s'accroupir, de s'allonger. tout est simplifié. Fait que notre appart, au fil du temps, on a commencé comme ça. On a mis notre matelas au niveau du sol. Mm-hmm. Je me pratiquais à dormir par terre, carrément sur le plancher. Je me faisais comme un mode d'entraînement sur mon tapis de yoga. Là, après, je pense que le premier geste, c'est que j'ai coupé les pattes de table de ma cuisine pour manger à la japonaise. Mm-hmm. Ça, j'avais full aimé ça. À un moment donné, j'ai enlevé les pattes de mon divan. À un moment donné, on a enlevé le divan. On voyait ça comme un petit laboratoire, là, où on aménageait un bureau dynamique.
Ouais.
On avait comme, je pense que je pourrais te sortir à peu près 60 positions différentes dans lesquelles on pouvait travailler, on alternait. Notre appartement est devenu un petit labo. Ou même nos corridors, on les optimisait pour enjamber des choses. Pour bouger plus. Si on avait pu, on aurait mis des monkey bars au plafond puis des prises d'escalade, mais c'était un vieux appart puis les murs s'arrachaient. Ouais. Mais tu sais, j'avais cette vision-là d'une petite jungle, le fun, où la fonction même de la maison, c'est plus le confort seulement,
ouais.
C'est le mouvement. Puis c'était ancré dans cette vision-là que le mouvement, c'est pas juste les activités intenses.
Mm-hmm.
Souvent, on pense à activité physique, on pense à quelque chose de vigoureux, qui, tu sais, la santé cardiovasculaire, se faire des muscles aussi, tu sais.
Ouais.
Mais notre vision du mouvement s'est enrichie à inclure tous les petits mouvements du quotidien, puis à voir l'importance aussi des expériences sensorielles, de nous voir fondamentalement comme des êtres sensoriels où on a besoin de toutes les petites interactions avec notre environnement pour comprendre et où notre place dans le monde. Fait que pour nous, marcher pieds nus, puis avoir des tapis texturés, ça faisait partie de notre vision du mouvement, puis d'amener peut-être des environnements développés avec plus de nuances puis de richesse sur ce que notre corps a besoin, finalement.
Oui. C'est parce que je squattais, comme tu disais, tu parles de squatter, là. Justement, je disais à mon chum, je dis, est-ce que tu es capable de squatter? Tu sais, juste, on regarde nos enfants, ils ont ça de façon innée. Ils se tiennent squattés, ils se tiennent en squat pour manger même, jouer. Ils sont toujours en squat. Moi, je suis complètement émerveillée parce que nous, justement, comme tu dis, on le perd, ça. Puis ça devrait mm-hmm. pas. C'est toute l'ouverture des hanches, ça étire le dos. Tu sais, on est fait pour juste squatter dans le quotidien à la place de se pencher aussi. C'est un mouvement qu'on devrait tous adopter, essayer, en fait. Parce que ça.
Absolument. Puis j'avais déjà entendu dire, tu sais, parce qu'il y a des cultures qui squattent.
Oui.
Il y a plusieurs cultures qui squattent au quotidien. Là, j'ai un ami qui est au Vietnam en ce moment, puis il m'envoie plein de photos de gens dans plein de contextes qui squattent. Le gars, il est dans son corridor, puis il squatte pour aller réparer son micro-ondes. Un enfant va squatter à table, sur une table, tu sais, pour manger à une table basse. Puis c'est juste normal. Puis j'avais entendu quelqu'un dire, non, mais c'est parce que leur physionomie est différente. Eux, ils peuvent, mais
hein?
Comme tu le nommes, tu sais, comme les Occidentaux, qu'on aurait pu développer cette capacité-là, mais c'est un peu absurde parce que tu le nommes, les enfants, de manière innée, vont squatter. Ils n'ont pas besoin de se le faire enseigner.
Non.
Puis c'est une capacité, donc, qu'on a, mais qu'on perd parce qu'on s'assoit sur des chaises. On enseigne aux enfants à s'asseoir sur des chaises. On leur demande même d'être immobiles.
Mm-hmm.
Puis notre corps, en fait, veut juste s'adapter à son environnement, en fait. Notre corps cherche constamment à s'harmoniser avec notre environnement. Puis là, notre environnement dit « assis-toi dans une position
mm-hmm. ».
Fait que notre corps se développe pour être bon à faire cette chose-là.
Ouais.
Mais ce qu'on perd, c'est d'autres capacités. Puis justement, squatter pour beaucoup de monde est impossible. Puis même moi, en fait, je m'entraînais à squatter. Tu sais, j'étais receveur au baseball à balle molle. Mais faire un squat statique comme pour relaxer ou faire des choses, c'était pas possible. Fait que je me disais « aïe, aïe ».
J'ai du chemin à faire.
Puis finalement, je me suis entraînée un peu dans le sens où, mettons, quand on était en tournée avec Participation, je me rappelle, tu sais, je me tenais après, je squattais, puis là, je tenais un meuble pour pas tomber par en arrière mm-hmm. en shakant. Mais au fil du temps, j'ai pas eu à me faire un régime d'entraînement. C'était vraiment juste en transformant ma maison.
Ouais.
Puis en m'accroupissant de manière consciente que maintenant, je suis capable de tenir un squat. Puis on dirait que je m'en suis pas rendu compte. J'ai fait, cool, maintenant, je suis capable, tu sais, mais... C'est un cheminement au fil de quelques années, là, quand même.
Oui, c'est beaucoup de travail. Réapprendre à squatter. Oui. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu disais ça aussi, on force nos enfants à s'asseoir tranquillement, à table, les bonnes manières et tout. Puis depuis que je les ai découverts,
Mes enfants avaient tendance à vouloir justement se lever un genou, mettons, ou squatter sur leur chaise pendant qu'ils mangent au repas. Puis, tu sais, j'ai changé ma vision des choses. Je me dis, bon, c'est pas grave. Ça change quoi, dans le fond, que tu squattes à table? OK, peut-être au restaurant, je vais te demander de t'asseoir comme il faut, tu sais, ou quand tu vas manger chez tes amis, mais ici, ça me dérange pas si tu as le genou levé ou... Parce que, justement, je veux promouvoir ça, tu sais, je veux m'assurer que... Après ça, à l'école, je sais pas si... comment ça va être. Ma fille, de toute façon, elle tient pas en place. Mais, oui, je pense que c'est important là, de les encourager à le faire.
Absolument. Absolument. Puis, tu sais, dans la question, mais pourquoi l'humain bouge plus? Tu sais, si c'est si important que ça, là, tu sais, puis on... Tu sais, il y a un nombre de campagnes de santé publique qui vont nous dire que c'est important de bouger. Ouais. Puis, les stats, la population bouge pas de plus en plus, en fait. Mm-hmm. En fait, ça décline. Fait qu'il y a quelque chose qui... qu'est-ce qui cloche, tu sais? Puis je réalise que... c'est ça, on a un élan de naturel de ne pas vouloir bouger comme adulte. Les enfants, eux, veulent bouger, mais souvent, c'est qu'on les contraint. Oui. On les empêche de bouger exact. De plein de façons. Oui. On leur met des souliers qui ne leur conviennent pas. Leurs vêtements sont toutes poignées, ils ne sont pas bien. On ne s'en rend même pas compte. Il y a beaucoup d'obstacles. Fait que la stratégie avec des enfants, c'est d'enlever les obstacles. Mais pour un adulte aussi, c'est d'en prendre conscience. Mais c'est aussi de redonner l'envie de bouger. Il faut qu'elle vienne profondément de l'intérieur. Puis ce que je réalise, c'est qu'il faut que le mouvement fasse du sens mm-hmm. pour qu'on ait, je ne sais pas comment dire, mais la flamme ou l'élan de faire du mouvement par après, par nous-mêmes. Puis... fait qu'une des choses que j'ai réalisées, c'est ça, c'est que là, en ce moment, le sens qui est accordé au corps ou à nos efforts, c'est que c'est valeureux ou c'est un luxe de ne pas bouger. Tu sais, on est dans une société qui valorise beaucoup le confort. Puis il y a quelque chose de civilisé à certains objets maintenant. Tu sais, être assis sur une chaise, élever les choses du sol et associer à quelque chose de sophistiqué. Tu sais, c'est symbolique. Les objets ont une valeur symbolique. Puis je réalise que c'est... qu'on a une biologie qui nous dit « Repose-toi, fais-en moins possible parce que c'est précieux ton énergie. » Puis en plus, on a un environnement qui est le reflet d'une culture mm-hmm. qui voit ça comme même presque inapproprié d'être nu-pied à certains endroits, ça comme inapproprié d'être assis par terre selon les endroits. Puis c'est ça les forces. Moi, je les appelle les forces invisibles mm-hmm. qui jouent contre nous en ce moment. Mais une fois qu'on en est conscient... Là, on voit le mouvement partout. Tu sais,
oui,
là...
c'est sûr. Ouais.
Fait qu'effectivement, avec les enfants, je trouve ça beau que de dire comme, hey, finalement, non, c'est pour leur bien qu'ils puissent grouiller un peu, aller se dégourdir. C'est contre nature de demander à un humain de s'asseoir de manière statique.
Mm-hmm. Oui.
Constamment.
Puis de ne pas changer de position, tu sais.
Oui. Ouais. Puis, tu sais, de fil en aiguille, en fait, ce qu'on a réalisé à l'appartement, c'est que quand Marc-Aurèle est arrivé, justement, on a commencé à réfléchir à... On réfléchissait de plus en plus à cette notion-là que si on se reconnecte avec la portion de nous, humaine, animale même, qui a grandi, qui a évolué dans la nature, que finalement, le but peut-être du design, c'est pas juste de se designer des maisons super cool où on peut tout faire, même si c'est dynamique à l'intérieur de la maison, c'est pas humain non plus d'être 90% du temps à l'intérieur. Fait qu'on avait une envie de nature de plus en plus grande. Puis quand Marc-Aurèle avait à peu près un an, l'idée qu'il puisse pas sortir spontanément puis aller jouer dans le gazon, moi, ça c'est vraiment une vision que ça m'a un peu percutée. Puis je me disais, ah, je pense que, OK, c'est beau, là, notre environnement en dessous du toit, là, c'est dynamique, mais il faut vivre dehors.
Ouais.
Il faut être dehors davantage. Fait que ma vision du design, c'est au-delà du design d'objets, c'est comment on change nos comportements pour aller plus dehors, puis la nature nous nourrit de plein d'autres façons. Puis à ce moment-là, on a décidé de quitter la ville, puis on a déménagé en campagne, en Estrie, puis on regrette vraiment pas notre choix, là.
Fait que Marc-Aurèle peut jouer nu-pied à tous les jours, dehors, dans le gazon.
Nu-pied, tout nu, il peut partir à course, aller jouer dans la boîte. Ouais.
C'est drôle parce que tu parlais des souliers tantôt, parce que vous parlez beaucoup des souliers aussi, Vivace. Puis mes enfants sont souvent nu-pieds dehors. En fait, ils sont toujours nu-pieds dehors. Même hier soir, où il faisait, je sais pas, 5-6 degrés, puis ils étaient dehors nu-pieds encore. Puis on se dit, les voisins doivent se dire qu'on est coucou, tu sais. Puis, tu sais, j'ai essayé même à la garderie. Je veux dire, tu joues dehors à la garderie avec les enfants, ils n'ont même pas le droit d'avoir des gougounes. Il faut que ça soit des souliers qui sont attachés à leurs pieds. Puis ma question à la gardienne, c'était, mais pourquoi? Tu sais, c'est important qu'ils développent justement tout le pied au complet pour leur posture et tout, tu sais. Mais t'es là, ouais, mais ils vont se marcher ses pieds, ils vont se faire mal. Bien là, s'ils sont tous nu-pieds, c'est pas grave. Ouais. Tu sais, j'étais comme, de quoi tu parles? C'est comme c'était ça, cette vision justement structurelle que la société a décidé que là, ben il faut avoir des bons souliers rigides. Puis, tu sais, on marche pas nu-pieds, ça a l'air si on n'est pas chez nous parce que... Moi, à la maison, il marche nu-pied, mais partout ailleurs, c'est pas permis.
Mais ça amène une réflexion. Moi, c'est ce que j'ai aimé du pilier du mouvement, c'est que, tu sais, quand on parle d'activité physique, je trouve que c'est un des piliers qui amène beaucoup. Les gens se sentent coupables. T'sais, si on parle, si je dis que je suis dans ce domaine-là, les gens vont soupirer un peu et dire, oh, je suis plus aussi active qu'avant. Même moi, je fais ça, en fait, de, oh, my God, il me semble que je bouge pas autant que je pourrais. Mais en même temps, je voyais énormément de potentiel parce que je me disais, si ce pilier-là est comme... Tu sais, on va le lire, là, c'est un pilier qui est tout le temps là dans les recommandations sur comment être plus en santé.
Oui.
Tu sais, on entend des experts dire que si on pouvait le mettre dans une pilule, les compagnies seraient multimilliardaires.
Oui.
Tu sais, c'est juste hallucinant c'est quoi les bienfaits du mouvement à tous les niveaux sur le corps, sur la santé émotionnelle, sur le développement du cerveau. Puis moi, j'ai commencé à réfléchir à dire qu'est-ce qui... C'est encore une fois, c'est quoi le maillon qui manque puis pourquoi ça fait pas de sens? Puis je pense qu'il faut ramener une dimension même spirituelle au mouvement. Ou, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, l'enfant doit mettre des souliers parce que c'est meilleur pour lui », je pense que c'est le reflet d'une société qui pense que le progrès puis ce qui est bon, on a mis notre foi, en fait, notre confiance, on la met dans des objets, des technologies. Mm-hmm. Ça, c'est une vision très comme, moderne, industrielle. Puis, ça met en lumière une déconnexion profonde de notre corps. On dirait qu'on ne croit plus comme société que notre corps est fait pour être fort, puis vivre bien, puis se guérir. C'est fascinant, on a des machines, en fait, pas de machine, mais comme on a une machine, en fait, biologique qui s'auto-guérit. C'est-tu pas merveilleux, hein? Puis on dirait qu'on n'y croit plus comme société que la nature est bonne pour nous puis qu'on a besoin d'elle. On se voit plus. On pense que l'humain est au-delà des lois naturelles. Tu sais, il faut ramener, puis je sais qu'on est d'accord sur ce modèle-là, la vision naturelle, c'est de dire on est des êtres on vit dans un environnement. Il faut prendre compte de l'environnement. Puis il faut se mettre comme un des maillons de la grande chaîne et non pas comme au top de la pyramide. Puis il faut savoir qu'elle est là, notre place. Puis je pense que notre amour des objets est inné aussi. Mais il ne faut pas en venir à croire, je crois, que notre santé dépend de quelque chose, je ne sais pas comment dire, que l'objet est mieux que notre propre corps pour fonctionner.
Oui, je suis d'accord.
Fait que les gens ont peur que s'ils enlèvent leur soulier, que leur pied ne va pas bien se développer, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse,
en fait. Oui.
c'est l'inverse, puis... Puis c'est en enlevant nos souliers que là, l'enfant, en fait, va mieux sentir tout le sol. Tu sais, il y a tellement de terminaisons nerveuses dans les pieds. Il va développer des pieds comme plus forts, plus sensibles. Ça lui donne une meilleure compréhension de son environnement. Tu as parlé de l'alignement du corps par après parce que les pieds, c'est... Les souliers influencent pas juste le pied, ils influencent le mouvement de tout le corps.
Ouais.
Puis même après, quand tu n'es plus en mouvement, ton corps se fige, se cristallise dans une certaine position, puis tes capacités vont être limitées, puis ça t'impacte dans plein d'autres sphères de ta vie aussi, tu sais.
Oui. Puis aussi, ben là, on n'en parlera pas dans cet épisode-ci, mais on pourrait faire aussi un épisode sur l'importance d'être nu-pied, dehors, sur la nature, le grounding et tout. Ouais. On peut faire un épisode complet là-dessus, mais le toucher à la terre, vraiment être groundé, c'est ça impacte énormément notre biologie, autant que voir le soleil. Justement, on a changé l'heure en fin de semaine, puis tu sais, les gens, c'est important pour plein de fonctions hormonales et tout, la cognition, la concentration, la vitamine D. Donc, c'est ça, je suis d'accord avec toi, puis c'est vrai qu'on passe, parce que je faisais justement des études, des recherches pour... parce que moi, je parle des toxines. Puis, tu sais, nos environnements à l'intérieur de la maison sont beaucoup plus pollués qu'à l'extérieur. Puis, on passe environ 89% du temps à l'intérieur. Puis, je pense que c'est 60% de ce temps-là, c'est chez soi. Fait que, tu sais, on est toujours à l'intérieur. Puis, on devrait être à l'extérieur, justement, combiné à un mouvement. Tout... Mais, tu sais, comme tu dis, ça revient aux chasseurs-cueilleurs. Notre biologie était faite pour ça, pour bouger, pour chasser notre gibier, pour le ramener. Après ça, squatter autour du feu à le faire cuire, tu sais. Mais toute notre vie était autour de ça, l'activité d'aller se nourrir, s'occuper de nos enfants, porter nos enfants. Puis ça, bien, on l'a oublié, autant que dormir avec nos enfants. Même chose. Ouais. Fait que toi, dans ta maison, je te demandais qu'est-ce que tu as fait. Dans le fond, tu n'as plus de chaise, tu m'as tout raconté. Ça, on le sait. Puis toi, parce que tu l'as dit tantôt, on pense au mouvement de faut vraiment lever des poids. Oui, la masse musculaire est importante quand on vieillit, c'est important. Faire des exercices cardiovasculaires, devenir essoufflé, c'est important aussi pour notre corps, comme le chasseur, il courait après son gibier, tu sais. Donc, toi, à travers tout ça, est-ce que tu intègres aussi des mouvements pour devenir essoufflé ou est-ce qu'à l'extérieur, tu te fais des exercices, des parcours, je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée comment tu fais ça parce qu'on a quand même, tu sais, que tu dis, les gens sont là, ah, ouais, c'est vrai que je suis inactif. Déjà, au moins, si tu bouges chez toi puis que tu as un environnement qui fait que tu squattes, que tu sais, tu es obligé de te lever de par terre quand tu te lèves de ton lit parce que tu sais, tu demandes ça aux gens, justement, assis-toi par terre, joue par terre avec tes enfants et relève-toi après. Ça peut être comique. Tu sais, comment tu te relèves, tu t'en rends pas compte comment que t'es raide, tu sais, les... Fait que, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, à part ton mouvement actif, est-ce que t'as intégré ça?
Oui, bien, dans le fond, il y a différents de... Tu sais, si on avait à décortiquer le mouvement, quelle dimension on doit adresser? Mm-hmm. Nous, on a investi beaucoup, beaucoup de temps à adresser la portion qui était comme mise dans l'ombre, tu sais, vu que le monde d'activité physique parlait beaucoup, peut-être plus d'intensité. Mais effectivement, il y a du travail en mobilité ou en expérience sensorielle qui, tu sais, va pas compenser de faire un bon sprint, tu sais, puis de faire comme travailler tout son corps de cette façon-là. Nous, une des choses qu'on a réalisées, parce que pendant un certain temps, Vince avait aussi un anneau où il traquait, il gardait la trace de différents paramètres de santé, puis il avait réalisé qu'en marchant, on marchait beaucoup, beaucoup à Montréal, puis en marchant dans la neige, tu sais, quand le sol est incertain, puis que c'est quand même... périlleux, il a réalisé que son cœur pompait autant que quand il faisait ses entraînements de haute intensité dans notre salon. Parce que nous, on avait une routine, puis on la maintenait même quand j'étais enceinte, dans le fond. Moi, c'était souvent un mix de yoga puis d'entraînement haute intensité. J'aimais aussi beaucoup, à l'époque, l'entraînement. Moi, j'aimais beaucoup le powerlifting, fait que faire du squat, du deadlift au gym. Puis Vince, lui, c'était ça, les entraînements à haute intensité. Mais là, tu réalises que c'est ça, en fait, la promesse de ces petits entraînements-là, c'est de dire, hey, juste 10 minutes par jour. On dirait que l'humain cherche à dire, c'est quoi dis-moi juste le minimum que je peux faire pour avoir le maximum de résultats. Tu sais, c'est ça un peu le discours en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, 4 minutes, c'est assez dans ta journée. Fait que nous, on ponctuait nos journées des fois d'entraînement comme ça, mais il a réalisé que, justement, en pelletant de la neige, en marchant dans la neige en ville, ça peut amener une certaine intensité. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit comme, ah, OK, cool. Fait que, tu sais, on maintenait nos entraînements, mais on s'est dit, ah, on pourrait pelleter davantage, mais on n'avait pas vraiment d'espace. Tu sais, on était dans un plex, fait qu'on n'avait pas de terrain. Fait que là, on s'est mis à spotter les la voisine, c'était une dame âgée, puis elle avait plein de neige sur ses marches. Fait qu'on lui a offert de commencer à pelleter ses marches. C'est cool. Parce qu'on cherchait du mouvement. Et nous, je pense que beaucoup de gens le vivent après qu'ils nous suivent, ils nous disent mm-hmm. Là, je vois du mouvement partout. Là. Tu sais, je me dis, ouais. Ah, telle affaire, transporter mes sacs d'épicerie, ça me fait bip-bip. Ouais. Mais je me dis que c'est du mouvement. Mm-hmm. Fait que nous, on spottait le mouvement, puis là, on s'est mis amis avec la voisine, puis on a commencé à l'aider comme ça. Fait qu'on c'est un peu ça qu'on faisait. Puis, justement, en ce moment, une des grosses modes, je ne sais pas si tu as entendu parler du rocking.
Non.
Ça, là, ça pogne là, dans le milieu anglophone. Je ne sais pas si ça s'est rendu dans le francophone, mais il y a une forme d'entraînement militaire où c'est de la marche rapide, mais c'est pas de la course, c'est pas du jogging,
ouais.
Avec une veste de poids.
Ah, ouais.
Puis ça a l'air que c'est... Tu sais, là, c'est la nouvelle patente. Hein. C'est exceptionnel parce que...
Tu travailles ton cardio.
Tu travailles ton cardio, tu travailles aussi en force musculaire et le risque de blessure est vraiment réduit parce que le choc sur le corps, vu que c'est pas de la course, mais de la marche, c'est ça, le risque de blessure est réduit. Puis c'est la marche, c'est accessible à vraiment, vraiment beaucoup de monde. Puis nous, notre vision à l'époque, c'est de dire, OK, c'est bien le fun, mais encore une fois, nous, on essaie toujours de dire, mais c'est quoi qui était naturel avant? Tu sais, la veste de poids, là, nos ancêtres, ils n'avaient pas besoin de ça. Fait qu'est-ce qu'ils transportaient finalement?
Ouais.
Bien, ils transportaient, tu l'as nommé, ils transportaient leurs enfants, ils transportaient de l'eau, ils transportaient du bois. Fait que nous, c'est là aussi qu'on avait un intérêt pour des activités comme le portage de notre enfant. Fait que j'essaie vraiment de me dire, oui, tu sais, on va au gym, on fait certaines activités, mais de toujours me poser la question, y a-t-il une activité naturelle, en guillemets, que je suis capable de faire qui implique de rien acheter, mais de vraiment changer comment je me comporte à la maison? Fait que finalement, c'était Marc Aurèle, notre entraînement. On l'a toujours porté, on le portait même pour la majorité de ses siestes. Il les a faites en portage. Encore aujourd'hui, il y a 2 ans et demi, puis des fois, il dort en portage dans les bras à Vince.
Oui. Vous n'avez pas de poussette?
On n'a pas. Ah oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Pas de poussette.
On a décidé de skipper la poussette pour nous avoir cet entraînement-là, en guillemets, mais aussi pour offrir à Marc Aurèle l'environnement sensoriel dont un enfant s'attend en nature. Tu sais, l'enfant, l'expérience d'être porté versus d'être dans une poussette n'est pas la même. Mm-hmm. Fait que nous, on voyait juste des bénéfices au portage. Même pour l'enfant 2, on n'en aurait pas plus. T'sais. On est comme full heureux de ce choix-là.
Ouais.
Je dois te dire, pour répondre à ta question, qu'il y a comme 2 chapitres, parce qu'il y a le chapitre enceinte, puis il y a le chapitre mode survie avec un jeune enfant.
Ouais.
Puis notre constat, on faisait notre bilan d'année cette année, puis on trouve que c'est justement les activités à de plus haute intensité qui ont pris le bord en ce moment.
OK.
Fait que sur plein de paramètres de bien-être, je trouve que notre vie est absolument meilleure. Je suis capable de squatter, être au sol, ça me fait vraiment du bien. On est tout le temps nu-pied, je fais des longues marches nu-pied, même sur la piste cyclable.
Oui.
Mais l'aspect cardiovasculaire a pris le bord parce que maintenant, les marches qu'on fait se font aussi à la vitesse de Marc Aurèle quand lui veut marcher avec nous. Fait qu'on est, on se sent plus connecté à la nature, on observe lentement la nature, mais. En fait, plus moi que Vince. Vince joue beaucoup avec Marc-Marie.
Oui, va courir après, mettons. Oui, chamaille. Va pitcher dans les airs. Mais Vince, je l'ai vu monter une côte cet hiver là, avec le traîneau. Ça, c'est un bon entraînement cardio.
Absolument.
Oui.
Puis là, mais le choix d'avoir déménagé à la campagne apporte plein de bénéfices, mais le revers, c'est que la vie se fait plus à pied comme à Montréal.
Oui.
Fait que... Tu sais, beaucoup de marches qui a pris le bord aussi. Puis là, on est à l'étape où on réalise qu'il n'y a pas... Notre mode de vie change en fonction de nos besoins puis des saisons de notre vie.
Ouais.
Puis que là, notre mode de vie qu'on avait avant d'avoir un enfant, on ne peut pas juste le répliquer.
Mm.
Parce que le répliquer tel quel, pour moi, en ce moment, ne fait pas de sens. Mettons l'idée de dire comme, OK, je travaille temps plein en journée. Puis là, j'embauche une gardienne pour aller au gym le soir ou aller faire du racquetball parce que c'est un sport qui m'intéresse beaucoup. Pas du racquetball, du pickleball. Bien, on dirait que ça faisait plus de sens parce que là, ma priorité, c'était aussi d'être avec mon enfant.
Ouais.
Dans cette vision-là que le but, c'est pas de faire bouger les enfants. Le but, c'est pas notre vision de comment ramener du mouvement dans l'enfance, c'est pas de trouver des programmes pour mieux faire bouger les enfants. Je pense que nous, notre focus est juste sur le parent.
Ouais.
Il faut que le parent change ses propres comportements, puis change l'environnement qu'il offre à l'enfant, puis l'enfant naturellement va se développer comme
ouais, il faut. Comme exposé.
Fait que l'idée que, mettons, moi, j'irais faire du sport d'un bord puis que mon enfant va faire du sport de l'autre. Puis encore, à 2 ans et demi, il n'y a pas vraiment encore d'activité pour son âge, là. Mais ça fait de moins en moins de sens à ma conception d'activité physique où je veux, en fait, que Marc Aurèle fasse partie de notre quotidien puis soit exposé à des vraies activités, des vraies tâches de la vraie vie puis qu'il apprend juste par même en partie par observation.
Ouais.
Fait que là, on est à un chapitre de notre vie où on est comme « Ah, il y a plein de choses de notre jeunesse, en guillemets, qui nous manquent. » Mais ça, les morceaux du puzzle, c'est comme fait de plus, là, comme ouais. avant. Puis c'est la grosse question, justement, c'est « Ah, oh, man, il nous manque des trucs d'intensité, il nous manque des trucs plus musculaires. » Fait que là, on est à la quête de ça en ce moment-là. Dans
votre...
révision du mode de vie, oui.
Bien, ça venait juste... Il y avait une autre question aussi. Dans le fond, c'était... qu'est-ce que tu penses de l'impact de votre mode de vie, justement, sur la santé de votre enfant, sur la santé des enfants, évidemment, sur Marc Aurèle, la façon dont il se développe, tu sais. Puis tu l'as dit, tu sais, si tu aménages ton environnement, pour ça, il va bouger naturellement.
Oui. Oui, bien, c'est tough à dire, hein, parce que là, il y a 2 ans et demi, puis... Tu sais, moi, ma vision de c'est quoi être vivace, il y a cette notion-là de l'espérance de vie en bonne santé. Mm-hmm. Fait que c'est comme vivre longtemps en bonne santé. Fait que là, Marc Aurèle n'a pas vécu full longtemps. Puis même nous, on le saura jamais, tu sais.
Ouais.
On le saura jamais avant la fin si on a vécu plus longtemps qu'on devrait vivre. Ça, c'est une grande question. Fait que la question, finalement, de la longévité, de vivre longtemps, moi, je la tasse un peu pour me concentrer plus à 100% sur l'aspect de la qualité de vie, tu sais.
Ouais.
Avoir la meilleure qualité de vie possible. Puis, tu sais, Marc Aurèle, je veux dire, à observer, je suis pas mal sûre qu'il n'y a pas de maladie chronique grave. Fait que l'aspect aussi, éviter certaines maladies, le concerne moins en ce moment. Fait que quand tu me posais la question, j'étais comme, ah ouais, est-ce que je juge que ces efforts-là ont valu la peine? Puis, on dirait que j'étais tellement 100% confiante, honnêtement, que si je créais un environnement sain qui allait bien aller, que. Je pensais même plus aux résultats. Je pensais à 100% à tout ce que je pouvais faire pour offrir le meilleur contexte possible, tu sais.
Ouais.
Fait que cette question-là, je me pose, puis là, je me dis, qu'est-ce que j'analyserais chez lui, tu sais. Moi, je trouve que... C'est là que j'ai pas comparé avec un autre bassin ou, tu sais, j'ai pas d'autres échantillons, mais de ce que j'observe, je trouve que Marc Aurèle a une belle joie de vivre. Il a beaucoup d'énergie. Puis, il est très mobile. Il aime beaucoup grimper. Il est, je le trouve, agile.
Ouais.
Mais encore une fois, je n'ai pas tant de comparatifs. Il y a juste une partie de moi qui se dit, je crois que c'est juste ce qu'un humain devrait vivre.
Ouais. Puis aussi, vous encouragez beaucoup. En fait, même il y a eu une étude qui est sortie dernièrement à propos du jeu risqué. Donc, ça aussi, là, ça fait partie de votre quotidien, puis c'est quelque chose que vous parlez par rapport à, avec Vivace là, sur les réseaux, mais aussi dans le clan, je suis pas mal sûre.
Oui.
Donc, c'est important de laisser nos enfants prendre des risques tant ils jouent.
Oui.
Puis ça, bien, vous le montrez beaucoup. Excuse-moi.
Non, mais c'est vraiment ça, c'est comme... La réalisation, tu sais, je parlais plutôt que le sport n'est pas nécessairement suffisant.
Mm-hmm.
Puis même si on fait du sport, si nos enfants bougent seulement dans un contexte sportif,
ouais.
Il y a une partie de l'équation qui manque parce qu'on n'est pas fait pour bouger juste aussi de manière structurée dans un objectif de compétition. Mm-hmm. Fait qu'il y a un grand mouvement en ce moment pour ramener le jeu qui est dit libre.
Ouais.
Fait que là où les enfants peuvent juste explorer sans contrainte, il n'y a pas de finalité... C'est très peu d'intervention de l'adulte. C'est de ne pas essayer de former l'enfant dans une direction. Avec le jeu libre vient aussi l'importance de la prise de risque parce que c'est quand on sort de notre zone de confort légèrement qu'on finit par acquérir aussi des compétences. Fait qu'une société qui a peur du risque puis qui ramène encore une fois dans un modèle de « il faut juste plus de confort puis de sécurité », ça mène éventuellement à des individus qui ont de moins en moins de capacités, en fait. Mm-hmm. Puis moins on a de capacités, moins on est capable d'accomplir ce qu'on veut dans le monde. T'sais. Fait que c'est... Je pense ma vision pour Marc Aurel, au-delà de aussi son bien-être physique, c'était, je l'espère, qu'il intègre en dedans de lui, qu'il est apte à faire ce qu'il passionne, qu'il a l'espace pour le faire, qu'il est encouragé à le faire, puis qu'il il a confiance en ses propres capacités.
Ouais.
Puis je pense que notre confiance en nous se développe aussi par l'action. C'est ouais. pas juste un travail psychologique. De dire que t'es une bonne personne, ouais. une belle personne. C'est quand on agit, puis qu'on se surprend nous-mêmes, puis qu'on se développe, puis qu'on fait face aux difficultés, puis à l'adversité, puis qu'on surmonte des risques, là, ouais, le thrill de grimper un arbre ou de franchir un étang, je sais pas. Tu sais, c'est comme. C'est là que. C'est par le vécu qu'on se développe comme humain. Fait que.
Je suis d'accord ouais. avec toi, dans le fond aussi. Puis c'est correct si finalement il tombe dans la flaque d'eau. Mm-hmm. C'est justement, c'est cet apprentissage-là aussi. Il faut qu'il apprenne, bien là, t'es tombé dans la... T'es sale parce que t'es tombé dans la flaque d'eau, puis c'est pas plus grave que ça. Ouais. C'est pas grave si tes vêtements sont sales, ça se lave, mais toi, t'as appris c'était comment qu'il fallait que tu bouges autour, puis tu sais, t'as exploré, c'est ça l'important.
Absolument. Mm. Puis ma vision, encore une fois, du libre ou du risqué, c'est... Puis avant, dans les communautés, c'est que les enfants jouaient toujours en périphérie à la vie des adultes. Puis oui, des fois, ils pouvaient avoir des moments où ils partaient seuls, puis ils avaient la liberté de se promener puis d'explorer un certain territoire. Mais les enfants n'étaient pas non plus séparés, puis regroupés par âge, puis séparés des adultes, puis ils créaient... Puis qu'ils vivaient juste dans leur petit monde imaginaire d'enfants.
Ouais.
Fait que c'est là que, pour moi, le jeu risqué... c'est pas juste, mettons, de faire un atelier où je le ferais jouer avec des couteaux. Ouais. J'inventerais pas des situations où de dire, puis là, on fait un jeu risqué. C'est comme, moi puis Vince, on fait un feu. Bien, Marc Aurel a le droit d'être proche de nous.
Mm-hmm.
Puis à un an, il se tenait pas encore complètement sur ses pieds, mais il pouvait mettre des petites branches dans le feu. Puis moi, je capotais ma vie. Là. C'est pas nécessairement facile, mais... Ça n'a pas été long, en fait, que le feu, c'était même plus spécial, puis il s'en foutait. Là.
Ouais,
dans le sens qu'il n'est pas devenu obsédé, puis il ne s'est jamais brûlé. T'sais, en fait, il s'est brûlé sur un rond de poêle.
Mm-hmm.
Parce que, justement, on ne réalise pas que... Tu sais, un poêle. Okay, un poêle, ça ouais. remplace le feu.
Ouais.
C'est un objet qu'on a créé, c'est un feu surélevé électrique. Mais quand un enfant est proche d'un feu, il y a plusieurs... C'est une expérience sensorielle. Ouais. Il va sentir... les odeurs, il va sentir la chaleur, il va voir la couleur des flammes changer. Ouais. Puis tu le vois qu'il comprend même à un an
que tu ne faut pas que tu es touché, là.
Oui, dans mon cas. Je comprends que les accidents peuvent arriver, ouais. je suis sûre que les enfants... Mais c'est ça, ça fait pas des risques. Mais moi, je trouvais qu'il devenait attentif autour du feu. Puis quand il s'est brûlé sur le rond de poêle, c'est parce que c'est pas cohérent avec une expérience naturelle. Tu as juste une surface plate qui est chaude, puis il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien.
Ouais.
Puis c'est là que je pense qu'on a un besoin viscéral de vivre, de faire vivre, il faut faire vivre à nos enfants des vraies expériences.
Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça que tu es ici, puis que je voulais qu'on en parle. Puis je voulais parler un peu de... On a parlé du mouvement, on comprend bien ce que vous faites. Vous avez aussi, vous expérimentez, en fait, au niveau de, parce que au niveau anthropologique, on vivait en clan, donc vous commencez à expérimenter ça un peu de votre côté, puis aussi vous avez vous-même un clan, en fait le clan Vivace, le clan, votre clan, ben on voit l'évolution, si on écoute vos podcasts, parce que pour ceux qui ne le savent pas aussi, Marc-Claude et Vince ont un super podcast, super intéressant. Donc, c'est quoi au juste le clan Vivace, puis qu'est-ce que vous partagez dans le clan?
Oui, bien, en fait, justement, je vais parler de la première portion
ouais.
de notre vision du mouvement, puis qu'est-ce qui fait que la variable des humains puis du clan est arrivée, bien, c'est que, tu sais, nous, on a notre enfant, on fait du portage, j'allaite, je fais de l'allaitement non écourté, dans le fond,
mm-hmm.
Je fais du cododo. Tu sais, toutes les pratiques de parentalité proximale se sont comme joints à notre vision du mouvement.
Ouais.
pour la petite enfance. On était beaucoup aussi dans la motricité libre. Fait qu'aucun objet marchette pour dire que l'enfant a besoin, encore une fois, d'un objet pour apprendre à marcher.
Ouais.
On se disait juste non, son environnement va être assez stimulant, qu'il va développer les bons patrons moteurs. Fait qu'on était tous là-dedans. Puis, comme beaucoup de parents, on était, même si on se rapprochait de notre vision de rêve, de comment on voulait vivre, on était quand même absolument désemparés, épuisés. Puis, moi, même en détresse par rapport à l'isolement qu'on vivait comme parents.
Mm-hmm.
Puis, on est devenu conscient, justement, une fois qu'on avait un enfant dans les bras puis qu'il fallait prendre soin de lui, que on n'est pas supposé vivre ça tout seul.
Ouais.
Fait que, tu sais, quand on parlait du pas de poussette, des témoignages qu'on avait, c'est, tu sais, je comprends, mais là, moi, je suis mère toute seule avec mon enfant en journée.
J'en ai peut-être deux.
J'ai besoin de plus de bras ou de dire, ben moi, j'ai porté même mes deux enfants puis j'étais super motivée, mais à un moment donné, j'avais mal au dos puis j'ai réalisé moi aussi que, ben il est supposé avoir une grand-maman, une cousine, une soeur, le père, d'autres humains, même d'autres enfants qui portent l'enfant pour nous.
Ouais.
C'est comme absolument inhumain de faire toutes ces choses-là tout seul. Fait que souvent, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est triste parce que j'entendais plein de témoignages de personnes qui, comme nous, faisaient des choix qui sont toutes les pratiques qu'on vient de nommer sont jugées comme alternatives.
Ouais. Hein?
Les gens se font dire qu'ils sont weird, qu'ils sont bizarres, qu'ils sont marginaux, qu'ils sont... c'est ça, c'est vu comme à contre-courant, mais en ce moment, c'est la société qui n'est pas représentative d'un mode de vie naturel. Mais reste que les gens, en ce moment, qui veulent agir pour leur santé, c'est eux qui sont vus comme les marginaux.
Mm-hmm.
Puis souvent, un discours que j'entends puis qui m'attristait, c'est de dire, bien, en essayant la parentalité proximale, de faire toutes ces belles choses-là, mais tu t'en mets trop ses épaules, puis tu te crées un stress, puis tu devrais baisser la barre un petit peu, tu sais.
OK.
Puis moi, face à ça, j'avais envie de dire aux gens, bien, non, on va juste aller au cœur du problème. Puis le cœur du problème, c'est qu'on est supposé, on n'est pas supposé faire ça tout seul. Fait qu'au lieu d'abandonner nos idéaux, il faut juste investir dans la vraie solution. Fait que oui, il y a l'habitat physique,
ouais,
la nature, mais c'est aussi le tissu social qui nous entoure. Puis c'est là que ça devient quand même différent que de parler d'objets puis de parler de l'influence de ouais, le vivant. Parce que là, on rentre dans l'humain, on rentre dans les relations humaines. On rentre dans des discussions des fois super intimes sur « OK, mais si je me sens tout seul à la maison, comment j'apprends à demander de l'aide? Comment je crée des nouvelles amitiés? Comment je nourris un lien profond avec un petit groupe de personnes?
Ouais. »
Dans quel genre de communauté j'ai envie d'évoluer? T'sais? Puis là, même moi, c'était une nouvelle sphère à intégrer dans mon modèle, mais c'était nécessaire. Fait qu'on a commencé, c'est un thème qui a émergé, l'aspect humain. Le pilier humain, le pilier, on a besoin d'un clan. Tu sais, souvent, les gens vont appeler ça la tribu, le village, la communauté, peu importe le mot, mais on a besoin d'autres mondes autour de nous. Puis pas juste, je pense qu'il y a des services de répit qui existent, puis c'est il faut ça, il faut différents types d'aide, mais ce qu'on a réellement besoin, c'est de vivre avec d'autres personnes dans le quotidien.
Ouais.
Puis je pense que oui, on peut déléguer nos mouvements à des objets, d'acheter des sièges pour poser notre enfant pour avoir un répit. Mais l'espace d'un instant, ça nous apaise, mais ça compte pas un
profond besoin de connexion.
Exactement. C'est là où il faut vraiment voir les objets sur... Oui, ils apportent des bénéfices, mais il y a une contrepartie à ça des fois.
Ouais.
Puis de dire, bon, ben OK, c'est ça. On embarque dans les relations humaines, puis on a une quête délibérée d'améliorer puis de nourrir notre tissu social, de trouver des amis, d'être nous des meilleurs amis aussi, tu sais. Puis c'est là que aussi comme entreprise, on a réalisé que au-delà du savoir qu'on peut partager, tu sais, on était beaucoup dans le monde des idées, tu sais,
ouais,
l'effervescence, les nouvelles idées, l'exploration, qu'une partie de notre rôle aussi, c'est de rallier les gens qui nous ressemblent, puis qu'ensemble, déjà là, on se sent moins seul. Fait que l'intention du clan Vivace, c'était pas de dire « Hey, à la gang, on se part une communauté.
Ouais. »
C'était de dire, hey, on vit chacun dans notre coin de pays, quelqu'un en Nouvelle-Écosse, il y a du monde en France, il y a du monde au Saguenay, tu sais, chacun dans notre coin, on va s'entraider à améliorer notre quotidien.
Ouais.
Puis même si nos réalités sont légèrement différentes, puis c'est là qu'on a réalisé que notre envie de documenter notre quotidien à nous, bien moi, j'avais envie de mettre le quotidien des autres en valeur aussi maintenant, ouais. De dire comme, hey, toi, Ève, qui a essayé, tes enfants jouent dehors, nu-pieds, même au mois de mars, puis ta voisine, nan, nan, comment tu gères ça? Qu'est-ce qui va bien de réaliser que le savoir est collectif, puis que c'est, vu qu'on est les marginales en ce moment,
ouais.
J'ai décidé aussi que j'allais, là, le prochain chapitre, on va changer le vocabulaire. On se sent comme des moutons noirs, mais on va aussi mettre de l'avant le fait qu'on est des pionnières,
ouais.
Puis qu'on est des défricheuses, puisque c'est valable, puis qu'éventuellement, les idées qui ont l'air weird en ce moment, ils ne seront pas.
Ouais.
Parce que ça va, ils vont se déployer dans la société, tu sais. Fait que, hey, on va se rassembler, puis nous, notre rôle maintenant, c'est plus juste de parler de notre quotidien, mais c'est de mettre en lumière le quotidien des autres, parce que les gens nous inspiraient aussi en retour. Il y a des gens qui font des trucs encore plus intenses que nous, puis je suis comme, cool, je vais en parler, tu sais. Mais, fait qu'on a créé une communauté en ligne. Puis là, pour la première fois, on fait aussi un événement en personne.
Oui, puis c'est plein, là. Vous avez beaucoup de... Il y a beaucoup d'intérêt.
Ouais.
Vous avez changé votre venue trois fois, votre endroit trois fois, parce qu'il y avait trop de monde qui se rajoutait. C'est vraiment génial, parce que comme tu dis, ça rallie les gens au même... Tu sais, qui ont des idées communes, mais aussi, justement, ça, tu te sens que tu n'es pas tout seul dans, de ta gang, dans... Bon... Le fait d'être pionnière.
Oui.
Puis de comprendre aussi des autres comment eux, ils forment leur clan, chacun leur côté. Vraiment.
Oui. Oui. Puis c'est nécessaire. Puis c'est là que le mouvement pour moi prend tout son sens.
Mm-hmm.
Tu sais, parce qu'en ce moment, tu sais, si on revient au paradigme de l'activité physique, le point de départ, initialement, c'était « Oh my God, la société bouge plus assez, il faut la faire bouger, il faut qu'elle brûle des calories. » Tu sais, puis on le réalise que c'est pas suffisant pour être... C'est pas inspirant,
ouais.
Comme message. Fait que là, la grande question, mais pourquoi je bougerais d'abord, tu sais? Puis, OK, pour être en santé, mais c'est quoi la santé? C'est quoi une qualité de vie? Puis mm-hmm. Là, ça revient, encore une fois, je ramène, ça revient à une question philosophique, bien, c'est quoi une vie qui est bien vécue?
Ouais.
Fait que, tu sais, quand tu me demandes c'est quoi l'impact sur ma carrière, je suis comme « Oh, OK, est-ce que... Il y a tellement de directions différentes. Tu sais, je peux parler de l'impact sur son corps, l'impact, les études vont le montrer que ça aide à la performance scolaire, ça augmente la performance professionnelle et tout, mais qu'est-ce que moi, au final, je valorise le plus? Tu sais? Mm-hmm. Ouais.
Puis aussi, ça va toucher, tu sais, on parle de clan, comme tu disais tantôt, tu sais, les enfants en périphérie puis les adultes au centre. Moi, je fais ça souvent, j'ai des amis, ça fait des années, c'est comme mon petit clan, justement. Puis tous les enfants se regroupent ensemble. Ils ont de 4 ans à 12 ans. Ils sont 8. Tout le monde joue ensemble. Ils trouvent une harmonie. Ils apprennent à développer des habiletés sociales de façon différente que, justement, s'ils étaient tous des enfants de 4 ans ensemble ou tous des enfants de 5 ans.
Ouais.
Puis aussi, à travers tout ça, ils nous voient, nous, on a parlé de ça justement la fin de semaine passée, sont venus toutes mes amies, tous les enfants, puis on parlait de qu'ils nous observent. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait à manger. Qu'est-ce qu'on leur présente à manger? On cuisine tous ensemble. Chacun a sa tâche. Il y en a une qui fait la vaisselle à côté, l'autre, tu sais, à l'aide. C'est vraiment, ça leur apprend d'autres choses. Vraiment, que juste, ben on va t'amener à la garderie, tu vas aller à la garderie, tu sais, je dis ça, mais ma fille va à la garderie, mes enfants vont à la garderie puis à l'école, mais tu sais, je veux dire, ils voient autre chose, une autre façon d'interagir, puis c'est super important qu'ils voient à l'extérieur de la maison comment les gens interagissent ensemble.
Absolument. Absolument, puis ça, quand on parle de comment créer du lien, le fait que je me sente un peu désemparée... À l'idée de faire ça, ça montre que on a vraiment des carences en social, on a des carences en toucher aussi, en connexion comme physique, en communication non verbale.
Ouais.
Mais on s'en rend pas compte quand on est dans une culture qui c'est ça, notre culture, on baigne, On baigne dedans.
Oui, on baigne dans la déconnexion, là aussi. Là. Je veux dire, on n'est pas connecté. Ils disent aussi, on est connecté sur des écrans, autant les parents que les enfants. Fait que tout ça, l'aspect mobile, l'aspect de parler à quelqu'un, de lui parler, de le regarder dans les yeux. Ouais. C'est sûr que, tout, comme tu dis, toutes ces conveniences-là, toutes ces choses-là qu'on a amenées dans notre vie contribuent au fait qu'on est déconnecté et qu'on bouge moins et tout. Là, c'est un ensemble de choses qu'il faut changer.
Absolument. Tu sais, fait que dans, tu sais, quand je réfléchis après, c'est quoi une vie bien vécue, mais c'est, je le dis à Vince, dans ces chaleurs, c'est tellement cheesy, mais il va falloir que je le dise là, de plus en plus. Mais on dirait que maintenant, tout pour moi revient à l'amour. Je réalise comme il n'y a rien, je crois, de plus. L'épanouissement vient d'aimer puis d'être aimé. Tu sais, c'est. Mm-hmm. D'être avec des gens qu'on aime. Tu sais, je pense que les meilleurs souvenirs dans notre vie en général se passent avec d'autres, puis on est supposé vivre avec d'autres. Puis maintenant, je vois notre mouvement, c'est ce qui nous unit à l'autre, c'est ce qui nous unit à notre environnement. C'est, si on est immobile, si on est dans une inertie, même physique ou spirituelle, c'est justement ça, on se sent déraciné, on est plus connecté à ce qui nous entoure. Puis l'acte de bouger, c'est ça qui nous rend vivants.
Oui, en tout cas. Je suis d'accord. je comprends. Mais tu sais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures.
Ben oui.
Donc là, le clan, dans le fond, pour être dans le clan, ça, c'est un groupe en ligne, un membership. Puis vous aviez aussi le podcast. Puis comme je parlais tantôt, vous aviez aussi quelques formations, des fois.
Oui.
Oui. Sur la vie sans couche et tout?
Oui. Ah oui, la sans couche, on s'en reparle. Mais pour moi, c'était l'exemple ultime d'un objet qu'on remet ouais. jamais en question.
Ouais.
Nous, on a tout passé au peigne fin, ce qu'il y a dans notre maison, puis on a réalisé qu'on peut même vivre comme parents sans couche ou avec beaucoup moins de couches qu'on pense pour un bébé.
Oui.
Fait que dans le fond, ouais, Viva, ce qu'on fait concrètement, c'est on a un podcast. Le clan Viva, de la manière qu'on le présente, c'est vraiment que le clan, les gens qui s'abonnent, permettent le développement du contenu gratuit. Fait que si les gens aiment le contenu gratuit, ils peuvent s'abonner dans une façon de dire merci. Je sais qu'il y a des gens qui veulent juste dire merci.
Oui.
Mais l'abonnement donne accès aussi à du contenu de plus. Puis, en live, chaque mois. Fait qu'avoir l'aspect aussi interaction, même si ça n'équivaut pas un vrai face-à-face, l'humain, ouais. d'au moins avoir du direct pour se parler puis échanger. Puis on a aussi une infolettre où chaque semaine, encore une fois, c'est important pour moi de documenter au fur et à mesure. Hein. Fait que chaque infolettre, c'est une façon de présenter des idées autour du design actif. Puis ça tombe, tu sais, ça oscille entre la philosophie puis des trucs full concrets.
C'est super intéressant.
puis ben ça, c'est gratuit. Puis les gens peuvent s'abonner en tout temps. Puis les programmes. Oui, c'est ça. Fait que là, ma vision ultime, c'est de créer comme un nouvel espace d'apprentissage en ligne, tu sais, de transmission du savoir. Puis ça passe par des programmes plus tu sais, structurés, justement, où il y a un thème très précis, comme là, il y a le pas de couche, mais là, on est en train de travailler sur le se déchausser, hein, fait que la vie pieds nus,
ouais.
fait que ce que ça implique. Puis il y en a comme une couple d'autres comme en banque. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, tu sais, quand dans le cycle, l'idée est assez mûre, puis qu'il y a une certaine quantité d'idées qu'on est capable de bien organiser, bien là, on lance des programmes, puis ça, c'est notre vision pour très longtemps encore. Super. Fait que voilà.
Yay! Puis,
je peux te dire si les gens veulent suivre le courrier, où aller, mettons?
Ben oui.
Ouais. Fait que si jamais vous visez, je pense que la première porte d'entrée, la plus facile, c'est si ça vous intéresse, ces idées-là, d'embarquer dans le courrier. C'est un courriel par semaine. On n'envoie pas vraiment d'autres offres promotionnelles. Si vous êtes sur Instagram, allez sur Instagram, vivace.maison. Écrivez-nous en message privé le mot courrier, puis Vince va vous envoyer le lien direct. Sinon, vous pouvez aussi aller sur notre site web, vivace.maison. Le point maison, c'est vraiment comme un point com. Là. C'est un...
Ouais.
c'est... Fait que vivace.maison. Puis vous allez trouver ce qu'il vous faut.
Super. Puis je vais terminer avec ma question. Que je termine tous mes épisodes avec ça, avec mes épisodes avec invités. Ce serait quoi le premier petit pas à faire pour une famille, une maman qui veut commencer à être plus vivace, en fait.
Mmh. Il y en a plein de petits pas auxquels je pense. Puis, je pense qu'un truc super accessible, puis que je trouve vraiment le fun, c'est de juste faire un pique-nique dans la maison.
Ah ouais.
Fait que, mettre une couverte à terre ou un... Ça, c'est un truc qu'on faisait à l'appartement, là. Carrément manger au niveau du sol. Mais la formule pique-nique rend ça comme moins intimidant puis valable parce qu'on le fait dehors. On le fait dehors sur le gazon puis on aime ça. Dans une maison, des fois, c'est inimaginable. Fait qu'avant de dire, ah, oh, je me... Parce que ça, il y a des gens qui l'ont fait. Ils nous ont écoutés puis ils se sont débarrassés de plein de meubles. Mais ça n'a pas besoin d'être le premier petit pas. Je pense qu'un petit pas, c'est juste de faire une activité, le fun en famille qui nous montre, qui nous fait voir notre environnement différemment. Puis qui nous fait, c'est ça, réfléchir à si c'est correct dehors, mais pourquoi c'est pas correct en dedans, puis comment je me sens, puis juste ça. Moi, c'est des choses qu'on a faites puis qu'on a bien trippé, puis je pense que...
Ah, les enfants, c'est magique, là. C'est drôle, tu parles de ça, puis mes parents ont reçu mes enfants la semaine passée pendant la semaine de relâche, puis ils ont fait ça. Ils ont monté une tente dans leur salon, puis ils ont fait un pique-nique, tu sais. C'est juste, c'est ludique, puis les enfants embarquent là-dedans. C'est vraiment un bon petit pas. Vraiment.
C'est un micro pas. Oui,
un micro pas, mais comme
mais
tu dis.
Mais ça me parle.
Oui, c'est ça. Ouais. Tu y penses plus. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude.
Ça fait vraiment plaisir. Puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on a des discussions comme ça.
Oh que non. Bye.
Bye.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but, c'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.